Voilà, bonjour à tous. Ce matin, on va prendre un thème qu'on n'a pas l'habitude d'entendre vraiment dans nos églises, mais vous allez voir que c'est un thème qui est important. On va avoir l'occasion d'entendre, d'aller plusieurs fois dans ces prochaines semaines un peu sur ce thème. Je vais aussi pouvoir vous partager un peu ce que, lorsque j'ai médité sur ce thème, qu'est-ce que ça m'a appris et qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Donc, le sujet m'a interpellé parce que cet été, j'ai lu un livre de Larry Crabb, qui est un thérapeute conférencier américain. Et c'est intéressant parce que ce livre, ça fait des années que je l'ai acheté. Je ne sais pas comment, je ne m'en rappelle plus très bien. Souvent, quand je vais dans les librairies chrétiennes, je regarde les livres. Des fois, je vois des titres. Des fois, il y a des livres qui sont en rabais, je l'achète. Et des fois, c'est bien plus tard. Et le titre ne me disait jamais rien. Et généralement, quand j'arrive en vacances, je prends toujours 3-4 livres avec moi parce que j'aime ça lire. Et cet été, j'ai sorti, bon, il faut que je prenne ce livre. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faut que je réalise un peu qu'est-ce que Larry Crabb veut dire dans ce livre. Et j'ai vraiment été interpellé parce que je crois que c'était le temps. C'était le temps que Dieu voulait que je lise ce livre. Quand nos rêves volent en éclats. Voici un peu un résumé du livre. Beaucoup de livres chrétiens nous disent que quoi faire ou ne pas faire pour convaincre Dieu de nous bénir pour une vie sans nuages. Un mariage heureux, des enfants qui grandissent pour servir le Seigneur, de plus grandes églises, la victoire sur le péché. Mais ce livre est bien différent. Il parle du chemin qui conduit à quelque chose d'infiniment mieux qu'une une vie riche en bénédictions divines. Il parle d'une relation intime avec Dieu. C'est vrai que nous avons l'habitude de voir, et nous croyons, que Dieu nous dit qu'il va jamais cesser de nous faire du bien. On peut le lire dans Jérémie chapitre 32, verset 40. Il dit: Je conclurai avec eux une alliance éternelle par laquelle je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me révérer de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Donc, dans ce verset, Dieu dit qu'il ne va pas les délaisser, qu'il leur ferait du bien. Lorsqu'on lit ce verset, c'est vrai que nous sommes dans la joie parce que c'est ce que nous désirons. C'est d'être proche de Dieu, c'est de voir que Dieu nous fait du bien. Mais la suite de ce verset donne une clé de ce que Dieu veut donner à son peuple. C'est qu'il le révère de tout leur cœur, c'est qu'il l'adore, qu'il soit vraiment entièrement à Dieu, qu'il adore seulement Dieu d'une façon complète. Donc en lisant ce livre, je découvre qu'une vie de bénédiction peut devenir le plus grand des obstacles à la découverte du chemin qui conduit à une espérance meilleure, celle de nous approcher de Dieu. Écoutez bien cette phrase. Une vie de bénédiction peut devenir le plus grand des obstacles à la découverte du chemin qui conduit à une espérance meilleure, celle de nous approcher de Dieu. Souvent, nous entendons dans nos églises, à travers YouTube, des prédicateurs, des pasteurs sur le sujet de la bénédiction de Dieu. On veut tous avoir une bénédiction de Dieu. On veut tous chercher une bénédiction. Dieu est bon. Et certains vont promettre toutes sortes de choses, que si on fait ceci, si on donne assez d'argent ou comme ça, Dieu va nous bénir. On veut cette bénédiction de Dieu. Et c'est correct, c'est normal, parce que Dieu est bon. Mais souvent, des fois, dans nos milieux chrétiens, on vend entre guillemets du rêve, de ce que ta vie avec Dieu va être remplie de joie, de bénédiction, si tu fais ceci ou cela. Prochain dia. Mais comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous avons tous des rêves d'une vie joyeuse, une famille unie, des enfants qui grandissent dans le Seigneur, un travail qui nous satisfait, bref, une belle vie avec Dieu. Mais ces rêves sont souvent brisés et nous ne savons pas comment faire avec cela. On peut perdre notre travail et toute notre sécurité financière. Alors on se pose la question, Seigneur, tu ne m'as pas dit que tu allais pourvoir à mes besoins? Lorsque nous perdons peut-être un être cher, comme notre femme, notre mari ou notre enfant, d'une façon toute soudaine, pourquoi Seigneur cela? Ou quand la maladie nous touche, et malgré les nombreuses prières de l'Église, nous ne voyons pas vraiment d'amélioration, en tout cas pas de guérison devant nous. Et c'est vrai qu'on peut continuer la liste encore longtemps. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville de Contrecœur, il y a maintenant 4 ans, on voyait vraiment la main de Dieu, on croyait que Dieu allait faire quelque chose de merveilleux. Mais lorsqu'une année plus tard, les premiers problèmes avec notre propriétaire ont commencé, nous avons vu cela comme un temps d'épreuve et que nous allons avoir après la victoire. Oui, c'est vrai que pendant 3 ans, quand nous avons vécu ces défis avec notre tension avec le propriétaire, nous avons vu vraiment aussi Dieu agir. Mais durant cette année 2025, je me posais la question, pourquoi, Seigneur, tu ne nous bénis pas à travers cela? Pourquoi nous passons par ces moments-là? Nous ne voyons pas forcément une direction claire. En plus, cette année, pour ceux qui le savent, Nicole a perdu son travail et elle n'a pas réussi à trouver un travail régulier depuis. Et je me posais la question, Seigneur, pourquoi? Tu n'es pas supposé de nous bénir. Pourquoi cela prend autant de temps pour avoir la réponse à nos prières? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons fait qui n'est pas juste ou que nous n'écoutons pas ce que tu veux nous dire? Donc, lorsque arrivent justement les épreuves, nous savons qu'après ces temps, nous allons avoir la victoire en Jésus. Mais des fois, ça n'arrive pas que cette victoire ne vienne pas tout de suite, ou des fois même très, très, très longtemps après. Mais en tout cas, pas comme nous le désirons. Oui, c'est vrai que j'ai compris que Dieu permettait ces temps difficiles que j'ai vécu avec notre propriétaire afin de nous montrer certaines choses, de continuer de nous faire grandir, nous faire progresser en tant qu'enfants de Dieu, pour devenir encore un chrétien plus mature. Mais j'avais une compréhension qu'ensuite je devais recevoir une certaine bénédiction parce que j'étais resté fidèle. J'avais quand même des questions sans réponse, des interrogations parce que je voulais avoir des réponses selon ma compréhension, selon mon pensée, selon même de ce que la société nous propose. Prochain dia. Regardez justement la pensée de ce monde. Il est dit dans la pensée de ce monde que la douleur doit être éliminée, car nous avons le droit d'avoir une vie heureuse sans douleur. Au Canada, nous sommes les champions des personnes qui prennent le plus de médicaments contre la douleur. Ce sont les médecins qui prescrivent le plus de Tylenol, de toutes sortes de choses, parce que les gens ne veulent pas souffrir, ne veulent pas avoir de douleur. Au Québec, on sait avec l'aide médicale à mourir, on prend ça comme un soin médical, de nous faire mourir quand devant nous, il n'y a plus d'espoir de guérison, quand la douleur est trop grande. Larry Crabb, dans ce livre, va dire une phrase troublante, mais tellement vraie. Dieu insiste sur le fait que la souffrance qu'il permet nous fait du bien, un bien nettement meilleur que celui de nous en délivrer. Dieu insiste sur le fait que la souffrance qu'il permet nous fait du bien, un bien nettement meilleur que celui de nous en délivrer. Donc, si on comprend cette phrase, ça veut dire que Dieu peut nous laisser dans la souffrance pour nous faire plus de bien. Et ça, c'est une compréhension que on n'a pas l'habitude d'entendre. Même dans nos églises, on sait qu'en tant que chrétien, on doit souffrir, qu'on va avoir des tribulations, qu'on va avoir des épreuves, des problèmes. Mais Seigneur, est-ce que c'est possible que je reste dans la souffrance et que dans ce temps-là, tu me fais encore plus de bien? Nous sommes plus enclins à vouloir la bénédiction, comme les autres, et c'est pour ça que nous refusons cette douleur. Larry va dire, la source du problème est notre compréhension de ce bien, qui est basé sur la bénédiction et centré sur notre bonheur immédiat. On nous achale partout. Vous avez droit au bonheur. Et on voit toutes sortes de publicités, justement, d'une belle voiture, une belle maison, avec toutes sortes de choses, pour nous dire, vous avez le droit à ce bonheur. Vous avez mérité ce bonheur. Vous travaillez fort, vous pouvez dépenser pour avoir ce bonheur. Et lorsque nous sommes malheureux, nous percevons cette réalité comme la pire des injustices. Nous nous perçons comme les victimes du monde d'un monde incertain, d'un Dieu indifférent, d'un ensemble de gens insensibles. Donc c'est vrai que notre objectif suprême est nous sentir mieux, même aussi en tant que chrétiens. C'est vrai que c'est une noble cause à défendre. Si nous avons la possibilité de réaliser quelques rêves qui vont nous apporter une satisfaction personnelle, nous sommes prêts à y mettre le paquet. Si on a l'occasion de nous engager dans des activités qui vont engendrer des sentiments positifs, ou du moins neutraliser les émotions négatives, on va lui plonger tête première. Et souvent, c'est ça, on est toujours à la recherche du bonheur, du plaisir, de enlever la douleur de la souffrance que nous vivons. Alors, prochain dia, justement, Larry, dans ce livre, nous parle de l'histoire de Ruth, ou plutôt de Noémie, sa belle-mère. Alors, ouvrons notre Bible dans le livre de Ruth. Nous allons voir comment que cette femme, Noémie, comment elle est partie, comment qu'elle est revenue, et au fur et à mesure que dans les différents versets, on va voir, du chapitre, on va voir comment que Dieu va restaurer, va lui faire comprendre réellement pourquoi il a permis telle chose. C'est intéressant parce que si on parle de Ruth, c'est une femme moabite, non juive, mais qui est dans la descendance de David, le roi, et plus tard de Jésus. Donc on peut voir comment que Dieu peut utiliser toutes sortes de personnes, même en dehors des schémas habituels, pour accomplir sa volonté. Alors lisons Ruth chapitre 1, versets 1 et 2. Il dit, au temps des gouvernements des juges, il y eut une famine dans le pays. En homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme, ses deux fils, pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils vécurent. Donc imaginez un peu cette histoire, cette famille. Noémie avec son mari et ses deux jeunes fils partent dans un autre pays à cause de la famine. Peut-être plusieurs personnes de notre Église peuvent comprendre ces situations. Plusieurs personnes sont parties de leur pays pour différentes raisons, afin d'aller vivre dans un autre pays pour avoir une meilleure vie, d'être libre, pour élever leurs enfants, leur famille dans la sécurité. Et c'est normal de le faire, parce que tout le monde veut justement être capable de pouvoir vivre aussi. Même si on sait que ça ne va pas forcément être facile, mais on le fait pour le bien de notre famille. Donc si on revient à Noémie, elle est heureuse dans ce nouveau pays. Elle sait que c'est un nouveau départ, un rêve qui est en train de se réaliser. Mais quelque temps après, son mari meurt sans que personne ne s'attendait. C'est vraiment un coup de poignard en plein cœur pour Noémie. Son rêve est en train de se briser. Ensuite, continuons d'imaginer, les deux fils grandissent, se marient avec des femmes du pays qui les accueillent. On peut le voir dans Ruth chapitre 1, verset 4. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurent là une dizaine d'années. Donc pendant 10 ans, la vie semble assez bien pour Noémie et ses deux fils et ses deux belles-filles. Elle apprend à les connaître et c'est vrai que leur présence efface tranquillement la perte de son mari. Noémie semble petit à petit heureuse. Elle a juste hâte d'avoir des petits-enfants. Mais là, il y a une autre tuile qui tombe sur sa tête. Un des fils meurt d'une façon tragique. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi mon fils? Elle n'a pas le temps de pleurer la mort de son premier fils, que le deuxième meurt aussi. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Mes trois hommes avec qui je suis venu dans ce pays pour me faire une belle vie, voilà qu'ils ne sont plus là, je ne comprends rien. Imaginez cette femme qui, oui, peut vivre dans un pays où il y a de la nourriture, une bonne sécurité, mais qui a perdu toute sa famille. Comment qu'elle se sent, qu'elle se dit, est-ce que ça vaut vraiment encore la peine de vivre ici, quand il me reste juste mes deux belles-filles? Tous ses rêves en venant dans ce nouveau pays avec sa famille, tous ses rêves sont envolés en éclats. Alors si on continue, prochain dia, elle apprend que dans son pays d'origine, en Israël, la famine est terminée et que le pays est prospère. Et donc elle décide de rentrer, car elle a tout perdu. Ses rêves ont été brisés, elle n'a plus d'attente. Elle veut au moins rentrer dans son pays natal pour se laisser mourir de chagrin. Donc elle retourne en Israël, mais elle ne veut pas aller avec ses deux belles-filles qui sont veuves et que personne ne voudra en marier parce qu'en plus, ils sont étrangères. C'est pour cela, justement, qu'elle insiste que ces deux filles refassent leur vie dans leur pays, qu'ils cherchent un nouveau mari et que Noémie va rentrer seule en Israël. Donc on voit que la première femme, Orpa, quitte Noémie dans les pleurs. Elle retourne dans sa famille. Mais Ruth veut rester attachée à sa belle-mère. Elle dit, où tu iras, on voit dans le verset 16 de Ruth 1, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Imaginez les membres de votre famille, vos voisins qui vous voient partir justement avec votre famille, vos maris, votre femme, vos enfants, et quelques années plus tard, vous voyez revenir sans rien, sans mari, sans femme, sans enfant. Donc Noémie retourne dans son pays natal. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons donc 1 Ruth chapitre 1, versets 19 et 21, jusqu'à 21. Ruth chapitre 1, versets 19 à 21. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce là Noémie? Elle leur dit, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. C'est des paroles dures hein, que Noémie va dire, que dit. Vous savez pourquoi que Noémie ne veut plus qu'on l'appelle par son vrai nom? Parce que la signification du nom Noémie signifie heureuse. Elle dit non, 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 ne m'appelez plus heureuse là. Moi, je suis plus heureux là. J'ai tout perdu. Je reviens les bras vides. Elle le dit ouvertement aux habitants de son village, qui sont tous surpris de la voir revenir. Mais elle dit, le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Le Tout-Puissant. Donc elle reconnaît que Dieu est puissant, mais que ce Dieu Tout-Puissant l'amène une vie amère. Comblé, j'étais parti, et vide, l'Éternel me ramène. Donc, elle accuse Dieu ici. Comblée, j'étais partie, j'étais heureuse. J'avais le nom qu'il fallait. Vide, l'Éternel me ramène. C'est l'Éternel qui me ramène vide. L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Pourquoi une telle attitude? Pourquoi qu'elle est si amère et révoltée contre Dieu? C'est vrai que on peut pas se mettre à sa place, parce que perdre d'un coup son mari, ses deux fils, et de pouvoir retourner sans rien, c'est vrai qu'elle peut se poser des questions, qu'elle peut être dans la révolte, dans la colère. Mais on va voir que fur et à mesure que Dieu va transformer cette femme pour qu'à la fin, elle dise la même prière, mais d'une façon qui est glorieuse, de la façon qu'elle va louer le nom du Seigneur. Donc, quelle leçon on peut apprendre par rapport à la vie de Noémie? Donc, le point 1, prochain dia, nos rêves les plus chers pour la vie présente, ceux que nous croyons essentiels à notre bonheur, doivent être abandonnés si nous voulons connaître Dieu véritablement. On a tous des rêves d'avoir justement une belle vie, d'avoir un bon travail, une belle famille. Et c'est vrai que c'est valable. Mais là, il parle des rêves qui sont essentiels à notre bonheur, à la façon comment le monde voit. Il doit être abandonné si on veut vraiment connaître Dieu véritablement. L'effondrement de nos rêves est nécessaire à la croissance spirituelle. Le deuxième point, les rêves brisés provoquent des douleurs atroces qui sont si intenses parfois que nous pensons ne pas pouvoir survivre. Nous émergeons de l'épreuve des rêves brisés en personnes transformées, mais pas toujours devenues meilleures. C'est vrai que les rêves brisés nous donnent des grandes souffrances. Des fois, nous ne pensons pas survivre, comme par exemple Noémie. Elle revient, elle va dire, je veux simplement me laisser mourir. J'ai plus d'espoir, j'ai plus d'espérance. Mais Dieu veut qu'à travers ces temps difficiles, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Des fois, la douleur est nécessaire pour que nous puissions découvrir nous-mêmes un véritable désir pour avoir des rêves meilleurs avec Dieu. Pas des rêves selon nos désirs, selon le monde, mais des rêves beaucoup plus grands selon le Seigneur. Peut-être qu'avant, qu'on ne serait pas été capable d'apprécier ou de saisir, parce que nous avons nos objectifs, nos rêves, mais Dieu a des rêves beaucoup plus grands pour nous. Le troisième point. Tel ou tel rêve que vous caressez va s'écrouler. C'est inévitable. Cela vous arrive tôt ou tard, aussi longtemps que vous serez en vie. Personne ne se rend à la ligne d'arrivée sans égratignure. Il n'y a personne sur Terre qui ne vit pas de problèmes ou de souffrances. C'est vrai que certains peut-être vivent plus de souffrances que d'autres. Mais la vie, elle est comme ça. Mais nous devons voir, dire, qu'est-ce que je veux faire dans ce temps de souffrance, de douleur? C'est vrai que certains de nos rêves importants qui vont se briser, et le fait de savoir que Dieu aurait pu nous assurer peut-être la pleine réalisation, des fois nous place dans une situation conflictuelle avec lui et crée en nous un malaise, un peu comme Noémie. Hein? Je suis partie heureuse, je reviens vide à cause de l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que tu aurais dû réaliser mes rêves. Et lorsque ça n'arrive pas, ben, on vit une certaine tension, une certaine colère avec lui. Le point 4, lorsque nos rêves moins importants se réalisent toujours selon nos attentes, nous avons de la difficulté à en apercevoir de plus grands. Nous les considérons même pas négligents de les poursuivre. Par exemple, un enfant que nous lui donnons constamment des friandises n'apprendra jamais à apprécier les légumes. Seule l'expérience d'une profonde douleur va nous rendre capables de reconnaître la vie véritable et de jouir pleinement. Et c'est vrai que peut-être c'est facile de le dire, mais c'est quand on vit des choses difficiles qu'on réalise comment que Dieu est là avec nous. Il est capable de nous entourer, de nous encourager. Le cinquième point, la plupart des gens ne découvrent jamais la vie véritable. Les incroyants sont en privé. Les croyants, pour leur part, la possèdent, mais peu en font l'expérience. Parce que, encore une fois, en tant que chrétien, on croit souvent que la vie va être rose. Oui, on connaît qu'on va avoir peut-être certaines souffrances, mais après, on va recevoir les bénédictions de Dieu. Peu de chrétiens se désaltèrent profondément à la source d'eau vive. Ça résulte que notre adoration, notre vie communautaire, notre témoignage manque de vigueur. Le sixième point, il est impossible de réparer le passé. Le futur, quant à lui, est toujours disponible. Chaque fois qu'un bon rêve est détruit, le meilleur surgit, qu'il devient possible d'apprécier et de poursuivre. Quoi qu'il arrive dans la vie, un rêve merveilleux reste toujours accessible lorsque nous voulons le poursuivre. Il nous procurera une expérience intime radicalement nouvelle. Cette expérience va être la joie dans le Seigneur. Lorsque nos rêves volent en éclats, lorsque la souffrance, les problèmes, les situations difficiles sont là, c'est dans ces temps-là que le Seigneur vient encore plus se révéler. Alors, prochain dia, est-ce que nous avons cette même attitude que Noémie? J'étais heureux, j'avais tout, ma vie était belle et maintenant je suis malheureux. J'ai tout perdu, la vie est amère. Larry Crabb dit, les rêves brisés ouvrent la porte à des rêves meilleurs, des rêves dont nous ne mesurons pas toute la valeur tant que les rêves auxquels nous accordons l'importance ne sont pas détruits. Dieu permet pour détruire nos conceptions du bonheur ou de la vie heureuse, afin de nous faire découvrir d'autres rêves plus importants et beaucoup meilleurs pour nous. Imaginez Noémie. Elle ne sait pas le plan de Dieu, mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour aller chercher Ruth, pour que Ruth puisse venir au pays et qu'elle en conçue, elle puisse épouser Booz et puis qu'elle voit comment que Dieu va la bénir à travers cela. Les rêves brisés éliminent les fausses attentes, comme celle d'une vie chrétienne victorieuse, à l'abri des combats, des échecs. Ils nous aident à découvrir la véritable espérance. Dans nos rêves brisés, dans nos souffrances, dans nos épreuves, mais les plus terribles, l'idée de notre Dieu nous amener plus près de lui, de vivre une intimité avec lui, que nous ne vivrons pas si nous ne sommes pas brisés. Lorsque j'ai compris cela cet été, que malgré tout ce que je pouvais vivre de difficultés, malgré que le fait que justement Nicole n'avait pas de travail, que j'ai dû mettre beaucoup plus de temps, d'ardeur dans le travail à l'extérieur, que ça a eu des effets sur peut-être sur le ministère ou sur d'autres choses de ma vie, j'ai dit Seigneur, c'est pour ça que tu m'as appelé. Mais j'ai réalisé, dire Seigneur, tu permets ces temps-là pour que je puisse m'approcher de toi. Alors oui, j'ai remercié Dieu. Je lui dis que je ne comprenais pas forcément tout ce que je vivais. Je ne comprenais pas pourquoi telle souffrance ou telle épreuve m'arrivait. Mais si ça permettait de vivre plus près de lui, alors j'étais prêt à l'accepter. On a besoin de comprendre, de saisir ce que Dieu veut nous dire encore ce matin. Alors, quelques idées, trois idées fondamentales, prochain dia. Dieu désire nous bénir. Il se plaît à rendre ses enfants heureux. C'est le désir de Dieu, de notre Seigneur. Parce que Dieu est bon de nature. Mais même dans la souffrance, même dans la douleur, nous pouvons être heureux. Pas la façon comment que le monde perçoit, mais selon le Seigneur. Des fois, je suis bouleversé de voir des gens qui passent par des moments très difficiles de souffrance, de maladie incurable, qui, malgré toutes les prières de l'Église, sont toujours malades. Mais quand je vois ces personnes qui, malgré ça, ont une paix, une joie profonde, ça me bouleverse. Le monde va proposer, ben, écoute, si tu es trop dans la souffrance, ben, voici la proposition. Tu peux partir, on va te donner ce qu'il faut pour partir. Dieu veut nous rendre heureux même à travers la souffrance. Le deuxième point, la satisfaction la plus profonde qui nous soit possible de vivre est celle d'une rencontre personnelle avec Dieu. Mais cette nouvelle manière d'agir avec l'être humain, Dieu nous fait le plus grand bien en se rendant accessible, afin que nous puissions jouir de sa présence et aspirer à une rencontre personnelle avec lui, pour que nous mettions plus d'énergie qu'à toute autre chose. La venue de Jésus sur terre nous permet d'avoir une relation personnelle et par la suite le Saint-Esprit qui est là avec nous pour nous guider. Et voilà pourquoi que justement le troisième point est dit, c'est pourquoi que le Saint-Esprit ranime notre soif. Il utilise la douleur engendrée par nos rêves brisés pour nous aider à découvrir notre besoin de Dieu, nous aide à relever des réalités plus nobles. Et l'auteur l'arrive à dire, c'est jamais un hasard que les rêves volent en éclats. Le Saint-Esprit utilise la douleur que causent les rêves brisés pour nous aider à découvrir notre soif de Dieu et nous amener à rêver le rêve le plus élevé qui soit. Le Saint-Esprit est là, même dans les temps les plus difficiles, pour qu'au lieu que nous regardons juste à nos douleurs, à nos souffrances, à nos épreuves, à nos pourquoi, pour dire, lève les yeux. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Je veux te faire découvrir d'être beaucoup plus proche de Dieu, d'avoir soif de Dieu. Parce que c'est dans les temps plus difficiles qu'on a un désir de s'approcher de Dieu. Quand tout va bien, on loue le Seigneur. Merci Seigneur pour ses grâces et bénédictions. Mais quand arrivent des situations difficiles, comme Job, hein, a dit, Job, il a aussi tout perdu. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom du Seigneur. On chante cette chanson, mais il y a très peu de personnes qui sont capables vraiment de le vivre. Mais moi, quand je chante ce chant, je dis, Seigneur, c'est fort ce que Job dit. Mais c'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire découvrir. Ce matin, allons dans ce cheminement que nous pouvons vivre des choses très difficiles, sans savoir pourquoi, de laisser le Seigneur nous transformer, afin de voir que ces rêves brisés veulent nous amener plus près de Dieu et de goûter à la véritable joie de la présence de Dieu. Peut-être que nous sommes comme Noémie, fâchés contre Dieu, croyant que le Tout-Puissant nous rend la vie amère. Le Seigneur ne veut pas nous juger d'avoir de telles pensées, mais il vient vers nous et veut nous entourer de ses bras d'amour et nous montrer qu'il est présent même dans les temps difficiles. Peut-être que nous sommes dans un temps où nous voyons pas Dieu où Dieu veut nous amener. Nous désespérons et nous continuons la lutte un jour à la fois. Persévérons, car même si nous ne ressentons pas la présence de Dieu, qui est forte à côté de nous, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent et qu'il nous accompagne. Le désir de Dieu dans tout ce que nous vivons, c'est de permettre de nous approcher encore plus près de lui, d'expérimenter une joie d'être en lui, même dans la douleur et dans la souffrance. Je termine avec cette pensée de Larry Crabb qui est aussi sur l'écran. Dieu désire changer nos pensées et notre façon de voir la douleur ou la souffrance, afin d'aller chercher dans ces temps difficiles une proximité dans la relation avec Dieu et la véritable joie en Dieu. Nous parlons souvent dans ces derniers temps que nous sommes dans la fin des temps. Et là, c'est vrai qu'on ressent. Donc, moi, je ressens qu'on est dans la fin des temps. Peut-être c'est juste le début de l'enfantement, comme il dit dans la parole. Les douleurs vont être là. Et on le voit, on a pu voir la semaine passée comment que la persécution des chrétiens continue de grandir, de progresser, malgré toutes nos prières, malgré toute la puissance de Dieu. Alors oui, nous allons vivre des temps difficiles. Oui, nous allons vivre des douleurs, des souffrances. Mais que dans ces temps-là que nous allons vivre, nous puissions vivre, dire Seigneur, peut-être que mes rêves volent en éclats, mais moi je veux m'approcher de toi. Je veux vivre cette intimité avec toi. Je veux pas m'attendre à une bénédiction. Je ne veux pas m'attendre même peut-être à une guérison ou à une résolution de mon problème. Mais je veux rester en toi. Et lorsqu'on le fait, une joie nouvelle vient en nous. Le véritable bonheur que Dieu nous promet est là. Parce qu'on focus plus sur le résultat ou le bonheur selon le monde ou selon ce que nous avons entendu que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut donner beaucoup de bénédictions. Mais on dit, Seigneur, quel que soit ce que je vis, je veux rester dans ta présence parce que je sais qu'en toi, j'ai la vie. Alors, courbons notre tête et réalisons que ce matin, nous savons, je ne sais pas forcément tout ce que vous vivez, mais le Seigneur veut simplement nous dire, à l'exemple de Noémie, que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nous. Que nous ne comprenons pas forcément tous les aboutissements de ce plan. Mais dans le temps, dans la progression de ce plan, dans la vie de tous les jours, même avec nos défis, nos épreuves, nos douleurs, nos souffrances, Dieu veut nous dire, viens dans mes bras. Je permets ces choses-là. Je permets même peut-être que ça se prolonge. Je permets même que peut-être tu sois fâché contre moi parce que je veux t'amener à quelque chose de meilleur, de plus grand. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin par cet exemple de Noémie nous interpelle, nous montre comment que Seigneur, nous avons peut-être des fois une conception de toi ou de notre vie, que souvent nous ne comprenons pas ce que nous vivons, les douleurs, les souffrances, les problèmes, les épreuves que nous vivons. Seigneur, permet simplement que dans ces temps difficiles, quand nos rêves sont brisés, nous puissions réaliser que tu es là, tu es présent et que tu veux notre bien, que tu veux nous amener à quelque chose d'encore de plus grand. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous ne connaissons pas toujours le futur de notre vie. Nous ne saisissons pas toujours pourquoi on passe par de tels chemins. Mais nous voulons reconnaître qu'on nous a aimé, que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et si tu es un Dieu tout-puissant, tu peux tout. Mais nous voulons venir, Seigneur, devant toi, dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne saisis pas, mais je reste confiance en toi. Je veux dans ce temps encore plus m'approcher de toi, parce que c'est vers toi que j'aurai le secours, c'est vers toi que j'aurai la force de résister, de persévérer. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce matin encore, pour réaliser que tu veux nous donner bien au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Même si l'ennemi, Seigneur, s'acharne sur nous, même si toutes sortes de choses arrivent, nous reconnaissons que tu es tout-puissant, tu es Dieu tout-puissant, et on veut encore continuer de t'adorer, te louer toi seul. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, que ce soit sur Zoom, que Seigneur, tu puisses nous encourager là où nous sommes dans notre cheminement avec toi, là où nous sommes dans nos étapes de vie, que tu viennes encore continuer, Seigneur, de nous accompagner, de nous montrer. Qu'est-ce que tu veux pour que nous puissions nous approcher plus de toi, que nous puissions encore plus restaurer notre relation avec toi, afin qu'on soit plus dans cette intimité, cette connexion réelle. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as pu faire dans la vie de Noémie et de Ruth, et que tu veux continuer de le faire encore pour chacun de nous encore aujourd'hui. Que ton nom seul soit glorifié. Nos louanges viennent de nos cœurs pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Comme Job, Seigneur, nous puissions nous dire, oui, Seigneur, tu as donné, tu as repris. Béni soit le nom du Seigneur. Merci. Amen.